Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieret et moi, l'histoire de Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Max Seville. Un document de Yonou Teyanou, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
C'est Esther Goldstein, la sœur du premier mari de Rodica, qui écrit au juge. Elle habite Tel Aviv avec sa famille et elle a découvert les accusations d'empoisonnement qui pèsent sur son ex-belle-sœur.
Quand ils lisent dans un journal pour les immigrants roumains en Israël que leur ex-belle-sœur est accusée de deux assassinats, ils disent « Mais oui, bien sûr !» Elle a dû assassiner aussi son premier mari. C'est pas normal qu'il soit mort comme ça d'une crise cardiaque. Elle saisit ce juge.
Esther raconte qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Rodica et Herman. Le mari avait même demandé le divorce, mais il est mort 2 mois plus tard, en août 82. Herman n'avait que 51 ans. À l'époque, les médecins roumains avaient attribué sa mort à une insuffisance cardio-respiratoire. Mais Esther Goldstein a toujours soupçonné Rodica. Pour le juge d'instruction, cette déposition est une bombe. Il ouvre une troisième information judiciaire pour recherche des causes de la mort et inculpe encore une fois Rodica. Les médias se passionnent pour cette histoire.
Journal télévisé du 23 septembre 1992.
Cette troisième inculpation fait suite à une plainte déposée en Israël par Esther Goldstein, sœur du premier mari de Rodica Negroyou, premier mari décédé lui aussi. Esther Goldstein, que nous avons joint ce matin par téléphone à Tel Aviv.
Je ne pense pas pour l'instant venir à Nancy pour des raisons personnelles, mais si je suis convoqué, bien sûr que je viendrai. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans ma déposition.
Avez-vous des preuves de vos accusations?
Je ne peux rien vous répondre pour l'instant.
À l'époque, une autopsie avait été pratiquée sans résultat. Elle avait conclu à un infarctus, d'où l'étonnement aujourd'hui du défenseur de la Roumaine.
Supposez qu'il y aurait eu crime. Voici un crime qui aurait eu lieu en Roumanie, entre Roumains à l'époque, qui ne concernant en rien la justice française, qui aurait concerné peut-être la justice roumaine, qui s'en est jamais inquiétée, et qu'on instruit en France pourquoi ? Pour pouvoir gonfler un dossier qui est vide, c'est-à-dire qu'à la place de trouver des preuves pour les deux décès dans lesquels ma cliente est incriminée à tort, on amène un troisième cadavre où il n'y a rien non plus, mais pour pouvoir dire, regardez, il y a tellement de cadavres qu'il doit bien se passer quelque chose.
Rodica Negroyou est maintenant inculpée pour 2 empoisonnements et un homicide volontaire. Mais pourquoi aurait-elle empoisonné tous ces hommes? Par appât du gain? Par vengeance? Est-ce qu'elle a toute sa tête? Les policiers se penchent sur la vie de cette femme pour tenter de comprendre. Rodica raconte volontiers sa vie au psychiatre qui vient l'examiner en prison.
Docteur Francis Bockel, expert psychiatre.
On a le sentiment que chez elle, il y a un fil conducteur comme ça dans sa vie. Un maître mot, c'est réussir, mais réussir pour réparer. D'abord son histoire familiale et personnelle. Elle a quand même décrit des conditions de vie, en particulier avec son père qui n'était pas très facile. Probablement un statut social de la famille qui n'était pas très gratifiant.
Rodica Negroyou est née en 1939 dans un village isolé de l'est de la Roumanie. Elle grandit dans une famille modeste, dans un pays écrasé par une dictature communiste. Elle quitte l'école à 14 ans pour travailler dans une usine d'ampoules électriques. Et ses études secondaires, elle les suit en cours du soir. En 67, quand Rodica épouse Herman Goldstein, elle est déjà enceinte. Leur fils naît en mars 68 et le jeune couple s'installe dans la maison des Goldstein à Butzaou, la grande ville de la région. Mais Rodica ne s'entend pas avec sa belle-famille. Quand Herman meurt en 82, elle reprend ses études et devient infirmière dans un hôpital psychiatrique. Pendant des vacances au bord de la mer Noire, elle rencontre 2 sœurs originaires de Nancy qui l'invitent en France. En 85, Rodica vend tout ce qu'elle possède en Roumanie et débarque en Lorraine avec un visa de touriste, son fils et quelques valises. sa demande d'asile politique est rejetée et sa qualification d'infirmière n'est pas reconnue en France. Alors pour gagner sa vie, elle travaille comme aide-soignante dans plusieurs cliniques de Nancy.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
Au niveau professionnel, elle laisse un souvenir qui n'est pas forcément un bon souvenir. Elle n'exécutait pas forcément les ordres qu'on lui disait. Elle était assez impulsive. Elle était parfois mielleuse. Quelqu'un de pas très sympathique, en fait.
Maître Gérard Michel, avocat de Rodica Negroyou.
C'est une femme captatrice. Elle le sera avec ses amants, avec ses compagnons, avec son fils. C'est une femme captatrice. À partir de ce moment-là, elle se construit, elle construit cette relation contre l'entourage.
Docteur Francis Bockel, expert psychiatre.
Dans les relations qu'elle peut développer avec les hommes, compte tenu de la perception plutôt négative qu'elle a d'eux, même d'une forme de mépris, on pourrait dire qu'elle les rencontre, elle les utilise, elle, éventuellement elle les exploite, et ensuite elle les jette.
Combative et sûre d'elle, Rodica Negroyou organise sa défense depuis sa prison. Elle n'a jamais empoisonné qui que ce soit et elle entend bien le démontrer. Son avocat demande une contre-expertise toxicologique 10 mois après l'arrestation de sa cliente.
Ce n'est pas seulement que je crois son innocence, c'est que je pense que dans le dossier, il n'y a rien qui permet de penser qu'elle soit coupable. Je vais demander une contre-expertise. Parce que vous savez, j'ai appris ça, je suis un avocat d'un certain âge, j'ai appris qu'une expertise, contrairement à la légende, c'est toujours l'avis d'un expert, ce n'est jamais une science exacte. Et va être désigné un expert incontestable, Madame Rudler, qui est un des plus grands experts français, directeur du laboratoire scientifique de la préfecture de police, expert international.
Les prélèvements arrivent à l'Institut médico-légal de Paris en février 1993.
Professeur Michel Rudler, experte en médecine légale.
Pour ce qui est de M. Jacquetel, je reçois un bout de viscère, des cheveux et des poils. Pour M. et lui, même chose, je reçois donc un bout de viscère et cheveux et poils. Alors, dans le premier cas, M. Jacquetel, je retrouve donc du phénobarbital et pas de digoxine. Pour monsieur et lui, j'ai rien retrouvé, ni digoxine, ni phénobarbital.
Miracle, merveilleux, la chance que tout avocat attend dans un dossier, libération de ma cliente.
France 3 Lorraine, votre journal régional.
Journal télévisé du 8 avril 1993.
Demande de mise en liberté accordée, Rodica Negroyou, inculpée de double empoisonnement, sort de prison.
Il est 15h quand la Roumaine sort de la prison d'Épinal.
J'attends avec impatience de voir mon fils.
On s'aperçoit qu'on a effectivement 2 cadavres, mais qu'on ne connaît pas les causes de la mort, qu'un expert trouve du poison, qu'un autre n'en trouve pas. Maintenant, le travail devient différent. Pour moi, la priorité jusqu'à présent, c'est de faire sortir Mme Negroyou. Ma nouvelle priorité maintenant, c'est d'établir définitivement qu'elle est innocente, c'est-à-dire de ce contrôle judiciaire, faire un non-lieu.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
Ça nous fait drôle. Ça fait drôle quand on a fait l'enquête et on voit que sur une seule analyse, les choses peuvent changer comme ça. Donc, ça paralyse un petit peu l'enquête. Hein.
Il est 16h quand Rodica Negroyou retrouve son fils et sa maison de Maxéville. Rodica Negroyou, qui a dû verser une caution de 500 000 francs, est assigné à résidence le temps de l'instruction. Dès demain, l'aide-soignante reprendra ses fonctions à l'hôpital psychiatrique de l'Axon.
Dominique, comment 2 expertises peuvent-elles donner des résultats aussi contradictoires ?
Eh bien Frédéric, parce que les 2 experts ont pu travailler sur des prélèvements ou des morceaux de prélèvements différents, et puis aussi parce qu'ils ont pu, l'un ou l'autre, employer une méthode d'analyse différente. Alors, le premier expert, c'est M. Coudane. Lui, il va procéder à l'exhumation du corps, et il va pouvoir, puisqu'il dispose du corps bien conservé, choisir ses prélèvements. Il va prendre des cheveux, il va prendre des poils et il va prendre des morceaux d'organes, en l'occurrence du foie.
Et du sang.
Et du sang. La deuxième expert, c'est Michèle Rudler, et elle, elle va travailler sur les restes des prélèvements de M. Coudane. C'est-à-dire qu'elle en aura en moins grande quantité, et les résultats, en fonction de la quantité sur laquelle travaille l'expert, peuvent être différents. Il faut savoir, par exemple, que sur un foie, le même foie d'une même personne, en fonction de l'endroit où on prélève, on peut obtenir des données, des analyses, des résultats qui sont différents.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a à ce point deux résultats différents ?
Logique, on s'en remet à un troisième expert. Donc, le troisième expert, c'est M. Deveau, c'est un expert de Lille. Et lui, il va rendre des conclusions qui sont identiques, quasiment, à celles du premier expert. Il dit que chez Gérard et lui, on trouve des traces de digoxine dans les prélèvements de foie, de cheveux et de poils. Et il dit que chez Raymond Jacquetel, on trouve des traces de digoxine, mais aussi de phénobarbital sur les prélèvements de sang, d'urine et de cheveux. L'expert numéro 1 et l'expert numéro 3 sont d'accord. Et l'expert numéro 3 commente les résultats de l'expert numéro 2. Il explique pourquoi Madame Rudler a pu trouver un résultat différent du leur. Il dit peut-être parce qu'elle n'a pas recherché de digoxine dans le sang de Raymond Jacquetel, comme l'avait fait l'expert numéro 1. Elle n'a pas cherché dans le sang, elle a cherché dans les organes. Deuxième point, peut-être a-t-elle un avis différent parce qu'elle a utilisé une technique qui consiste à mélanger les organes et ensuite à faire des prélèvements et des analyses. Et ça, pour M. Deveau, l'expert numéro 3, ça peut fausser les résultats de dosage obtenus.
Du coup, est-ce que le juge d'instruction remet Rodica Negroyou en détention ?
Non, il ne la remet pas en détention parce qu'il va considérer que ça ne présente pas un intérêt particulier de la mettre en détention, sans doute parce qu'elle ne présente pas de troubles à l'ordre public, et puis aussi, vraisemblablement, parce qu'elle elle donne l'impression d'avoir envie de s'expliquer. Quelqu'un qui a envie de s'expliquer, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite.
Dès sa libération, en avril 93, Rodica Negroyou déclare la guerre à tous ceux qui se sont mis en travers de sa route. Elle attaque tout le monde.
Rodica écrit tout à la main. Elle dépose plainte contre des dizaines de personnes impliquées dans le dossier. Les voisins de Raymond Jacquetel, Claude, son héritier, la famille et lui, son ex-belle-sœur, Esther Goldstein, le médecin légiste, le directeur de la maison d'arrêt, les policiers, le juge d'instruction et même Roger, son ex-compagnon. Elle dépose aussi plainte contre X pour dénonciation calomnieuse contre l'auteur du coup de fil anonyme. Plus fort encore, le 15 janvier 1998, un couple de militaires de Chalon-sur-Marne reçoit une lettre de Nancy signée Rodica Negroyou, une femme qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vue. Un texte de 10 pages qu'ils déposent au commissariat.
Inspecteur Serge Ploussard, police judiciaire de Nancy.
Dans cette lettre, elle accuse les enquêteurs, dont moi finalement, d'avoir utilisé la torture pour la faire avouer, de l'avoir menacée de mort. Et donc, elle envoie cette lettre, en fait, à différentes personnes qu'elle a sans doute pris dans l'annuaire comme ça. Elle est identifiée comme étant l'auteur de cette lettre.
Les policiers déposent plainte pour diffamation. Et Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, se joint à la procédure. Rodica est convoqué devant le tribunal correctionnel.
Journal télévisé d'octobre 1997.
Je suis une femme innocente, je n'ai rien à reprocher. Alors bien sûr qu'il faut que je me défende, j'ai confiance dans la loi française.
Maître Gérard Michel, avocat de Rodica Negroyou.
Elle se sent tellement persécutée que je crois qu'elle bascule une sorte de folie, totalement paranoïaque, ce qui va expliquer ce comportement, mais vraiment, là encore, suicidaire. Comment voulez-vous, devant les juges, devant les jurés, quand on accuse les policiers, le directeur de la prison de vous avoir torturé, que ça donne le moindre crédit au reste de ce qu'elle raconte? Ça va être un des drames de cette affaire. Là, elle aurait pu donner des éléments essentiels pour se défendre. Tout ce qu'elle dit tombe à plat, n'a aucune valeur. Elle a accusé tout le monde de tout et n'importe quoi. Elle a nié l'évidence. Alors là, c'est terminé. Plus personne ne lui fait confiance.
Rodica Negroyou est condamnée à 5 mois de prison avec sursis et 10 000 francs d'amende, mais ça ne lui sert pas de leçon.
Madame Negroyou vient me voir en me disant « J'ai une citation devant le tribunal correctionnel pour outrage à magistrat. » Je me demande ce qu'elle a encore fait.
Rodica lui raconte qu'elle attendait à un passage piéton pour traverser le boulevard Baudricourt à Nancy. Quand, tout à coup, une voiture a brûlé le feu et lui a foncé dessus. Elle a été projetée contre des poubelles et s'est retrouvée par terre.
Elle a relevé le numéro minéralogique de la voiture. Elle dit « Je n'ai pas vu qui conduisait, mais je suis formel. C'est cette voiture qui a voulu m'écraser. »
Monsieur le juge, cette voiture, en fait, vous la connaissez bien.
Je la connais bien puisque, en fait, c'est la mienne.
Et on vous dit qui vous accuse ?
Oui, je suis au courant qu'à ce moment-là, c'est Rodica Negroyou qui m'accuse. Je suis un peu interloqué et donc je demande à être entendu. Et c'est là que je connais les termes, effectivement, de la plainte. Alors, c'est une voiture donc roulant à une grande vitesse, en sens interdit, hein, et qui est venue là... est tenté de la percuter, qui effectivement a fini par la percuter, mais le conducteur s'arrête, ouvre la portière, la regarde, ensuite il ferme la porte et donc il prend la fuite. Elle donne aussi des éléments de description, lunettes, moustaches.
Et vous l'avez renversé, Rodica Negroyou ?
Bien entendu que je ne l'ai ni renversé, ni cherché à le renverser, et que c'est une dénonciation purement calomnieuse.
D'après vous, pourquoi elle vous accuse ?
Son procès d'assises approche, et est-ce qu'elle veut repousser la date de son procès ? Est-ce qu'elle recherche d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres finalités à cette plainte ? Peut-être.
Alors qu'est-ce que vous faites ?
Tout de suite, j'ai porté plainte, j'ai déclaré que je portais plainte très formellement contre Rodica Negroyou parce que c'était des accusations mensongères et elle a été condamnée pour dénonciation calomnieuse.
Elle a pris combien ?
Elle a été condamnée à 1 an d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et c'est ce qui lui a valu de comparaître à la cour d'assises détenue. Si elle cherchait à reporter le procès, je pense que c'était raté.
Et que devient l'affaire Goldstein ?
L'affaire Goldstein se solde par un non-lieu, compte tenu de l'ancienneté donc, du décès, qui datait de 82, et on avait peu de chances de faire procéder donc, à des analyses qui auraient pu permettre d'aboutir à des résultats.
Au final, elle est donc renvoyée pour ?
Elle est renvoyée uniquement pour l'empoisonnement de Jactel et de et lui.
Le procès de Rodica Negroyou s'ouvre le 21 juin 1999 à Nancy. L'instruction a duré 7 ans.
Maître Gérard Michel, avocat de Rodica Negroyou.
Le procès commence dans les pires conditions. Une femme qui est donc, j'allais dire, présumée coupable entre deux gendarmes avec les menottes. Un public considérable, une presse considérable. Ce qui donne toujours l'impression jurée, ça doit être important, ça doit être grave ce qui se passe. Elle, elle a un look de blonde sulfureuse qu'elle cultive et qui donne l'impression qu'effectivement elle est prête à charmer les hommes pour leur faire avaler ensuite du poison. Et à côté d'elle, son fils, qui donne tellement l'impression de faire bloc avec qu'on se dit ces deux-là. Dans le secret de leur maison, quand ils étaient ensemble, qu'est-ce qu'ils ont préparé ?
Frédéric Claus, journaliste à l'Est républicain.
Elle est actrice de son procès. Quand parfois des accusés sont repliés sur eux-mêmes, presque atones dans le box, elle est droite. Elle prend des notes, elle connaît son dossier par cœur, jusqu'au numéro des cotes. Et à chaque fois qu'elle est prise en défaut ou qu'elle se sent gênée, sa réaction est quasi volcanique.
Elle passe son temps à me passer des petits mots en disant « Posez telle question, il faut que vous demandiez ceci au témoin, dites cela, mais des dizaines de fois par jour. Alors premièrement, c'est très difficile de travailler comme ça, parce qu'il faut garder le cap et suivre aux assises chaque seconde ce qui se dit, et d'autre part, ce qu'elle m'écrit n'est pas toujours très intéressant et opportun. Mais si je ne le fais pas, je sens bien qu'elle va exploser.
Docteur Francis Bockel, expert psychiatre.
Elle a besoin du contrôle absolu sur tout, sur toutes les situations. C'est-à-dire que rien ne peut lui échapper dans le dispositif qu'elle a inconsciemment qu'elle a mis en place pour pouvoir exister. Effectivement, il ne peut pas y avoir de faille, il ne peut pas y avoir de vide. Donc, elle doit tout maîtriser, tout contrôler.
L'audience est houleuse. Rodica agresse, menace, insulte les témoins.
Francine Helluy, sœur de Gérard Helluy.
J'ai trouvé que le juge l'a laissé faire tout ce qu'elle voulait, raconter tout ce qu'elle voulait. Il y avait qu'elle qui avait la parole. Mais au bout de 8 jours, je dis, c'est pas possible qu'il la laisse hurler comme ça dans le tribunal.
Maître Thierry Moser, avocat de la famille Helluy.
J'ai rapidement réalisé que ce laxisme apparent était en réalité une habileté de la part de la présidente pour que de ce choc verbal jaillisse la vérité. Et je dois dire que Joël Lagrange et moi-même, nous avons participé à cela. Nous avons parfois titillé ou provoqué, je dirais, Rodica pour que finalement elle se lâche, passez-moi l'expression. Et c'est quand on se lâche que souvent, eh bien, on oublie naturellement d'être prudent. Et on peut être amené à dire la vérité, ce qu'on va ensuite regretter.
Et Rodica tombe dans le piège. À la barre, Claude, l'héritier de Raymond Jacquetel, fait une révélation. Il reconnaît que c'est lui qui a encaissé les 750 000 francs, les économies de Raymond Jacquetel, parce qu'il avait les numéros de série des bons du trésor.
Ça renverse complètement l'affaire. Elle n'a plus de mobile. On ne saurait pas pourquoi elle a tué M. Jacquetel. C'est essentiel.
Frédéric Claus, journaliste à l'Est républicain.
Elle va se lever et faire face à la partie civile, la montrer du doigt et lui dire « C'est vous qui avez les sous et c'est moi qui suis ici ».
Et à ce moment-là, c'est comme une lionne qui est en rage et en furie. Elle est dépitée, elle est folle furieuse, elle sort de ses gonds, elle injurie tout un chacun.
Vous voyez, c'est un voleur! C'est lui qui m'a volé, c'est un voleur! Éclat de rire général, parce que s'il l'avait volé, c'est qu'elle-même était la voleuse. Et en réalité, de ce moment-là, qui pouvait être la bascule du procès, elle va faire un moment désastreux, parce qu'elle va donner une telle impression de cupidité que ce monsieur qui avait en secret pris les bons du trésor, qui n'avait rien dit pendant 5 ans au juge d'instruction, qui a dû quasiment se faire retourner par le président jusqu'à ce qu'il avoue. Donc cet homme qui avait essayé de tromper la justice devenait un héros, et c'est elle qui avait un rôle désagréable, simplement parce qu'elle criait qu'on lui volait ses bons du trésor, qui n'était pas elle, qu'elle n'avait aucune raison d'avoir.
Les avocats de la partie civile tendent alors un nouveau piège à Rodica.
Il va y avoir aux assises quelque chose d'extraordinaire. Le président de la cour d'assises fait disposer sur la table, devant la cour, tous les objets qu'on a trouvés chez elle à la perquisition.
Francine Helluy, sœur de Gérard Helluy.
C'était une vraie salle des ventes. Ils ont amené tout ça dans le tribunal, c'était incroyable. Incroyable ce qu'ils avaient pu voler partout. Même, je vous dis, le de M. Jacquetel, il y avait son cadre de mariage.
Et ni en évidence, la tour Eiffel, les médailles de 1914, tout, elle dit « c'est à moi, ça vient de Roumanie ». Et mon confrère, parti civil, maître Lagrange, prend sa montre, la dépose sur la table pendant qu'elle ne regarde pas. Et lui demande un ou deux objets, elle dit « c'est à moi », et lui dit « est-ce là ?» Elle dit « c'est à moi ». Alors, éclat de rire général, maître Lagrange reprend sa montre, l'effet d'audience est réussi, ça donne quelle impression ? À moi, ça donne l'impression qu'elle est maladroite et intéressée. Au juré, ça donne l'impression qu'elle ment.
C'est l'un des plus longs procès de l'époque. 15 jours d'audience. 15 jours pendant lesquels on examine en détail les circonstances dans lesquelles sont morts Raymond Jacquetel et Gérard Helluy.
Madeleine Helluy, belle-sœur de Gérard Helluy.
Et pendant 10 ans, j'ai vécu avec ce calvaire. Toutes les nuits, j'avais des insomnies parce que ça ruminait. Ça a duré 10 ans. Chaque fois que je me couche, si jamais je pense à au problème, allez hop, ça fait 2 heures sans dormir. Ça, jamais valé.
L'avocat général demande une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés sortent délibérés.
Maître Gérard Michel, avocat de Rodica Negroyou.
C'est jouable. Je me dis c'est jouable. Quand les jurés sortirent, s'en vont, et vous savez, juste avant le délibéré, il y a le président qui lit aux jurés la célèbre formule « La loi ne vous demande pas compte des motifs qui vous amènent à rendre votre jugement ». Elle vous demande de vous interroger dans votre intime conviction et de vous demander quelles sont les preuves que rapporte la société. Là, je me dis, il n'y en a pas.
Après 3 petites heures de délibéré, les jurés reviennent. Verdict, coupable, 20 ans.
Tout d'un coup, un hurlement. C'est Madame Negroyou qui se met à hurler en criant que c'est une erreur judiciaire, que ce sont des assassins.
Frédéric Claus, journaliste à l'Est républicain.
Elle se tourne vers ses juges en leur disant « Je suis innocente, vous êtes des criminels » à des gens qui viennent de prononcer 20 ans pour un double empoisonnement contre elle.
Les gendarmes qui la traînent pour la sortir dehors parce que le président immédiatement fait ordonner, bien entendu, qu'on l'évacue, fait que tout ça se termine avec la même violence que l'ensemble des débats.
Albert, vous défendiez Rodica Negroyou avec Maître Michel.
Ouais.
Est-ce que vous aviez vraiment un espoir avant le verdict ?
On a toujours un espoir quand on défend quelqu'un dont on est persuadé qu'elle est innocente. Mais il y a rarement des acquittements. Quand en province, vous avez déjà une coupable désignée dans la presse locale.
Vous étiez l'avocat de Simone Weber, l'empoisonneuse de Nancy à l'époque. Avez-vous remarqué des ressemblances entre les deux femmes ?
Ah, c'est saisissant. C'est presque du copier-coller, c'est là, je dirais, le deuxième épisode de la série. Pourquoi ? On a deux femmes qui sont des femmes exceptionnelles. Je dis exceptionnelles, qui sortent de l'ordinaire. Elles sont brillantes, elles sont intelligentes, elles sont séduisantes. Ce sont des femmes qui se sont battues dans la vie, qui ont connu des malheurs, qui ont toujours travaillé. Et puis, ce qui est saisissant aussi, c'est que si on prend les victimes, eh bien, on est en présence de deux victimes. Et puis surtout, et c'est ce qui a alimenté les fantasmes policiers, on a le même poison.
En 2002, Rodica Negroyou subit ce qu'on peut appeler une double peine.
Oui, c'est plus qu'une double peine, c'est presque une mesquinerie judiciaire. On va la déchoir de sa nationalité et de sa nationalité française.
Pour quel motif ?
Bah, le motif selon lequel le mariage qu'elle avait contracté avec lui était un mariage blanc. Ce qui est tout à fait d'ailleurs contesté dans la simple lecture du dossier.
Le fils de Rodica a été poursuivi pour vol et recel. Il a été jugé en même temps qu'elle. Et qu'est-ce qu'il prend comme peine ?
Un an de prison avec sursis. On a l'impression que c'est une peine familiale. On a condamné la mère, il fallait condamner le fils.
À l'époque, l'appel n'existe pas. Qu'est-ce qu'il vous reste comme voie de recours ?
À partir du moment où Rodica Negroyou est condamnée, tous les moyens de droit qui sont à notre disposition doivent être employés. On a saisi la Cour de cassation, ça a été rejeté par la Cour de cassation, et dans ces conditions, nous n'avions plus de voie de recours normale.
Dans sa maison de Maxéville, le fils de Rodica Negroyou poursuit le combat. Il veut prouver l'innocence de sa mère.
Le fils va passer désormais sa vie feuille par feuille, à lire, à relire le dossier de condamnation de sa mère. Et à tout vérifier, point par point. Et tout d'un coup, il s'aperçoit que dans l'expertise médicale, on indique que M. Jactel prenait un médicament qui se trouve avoir les mêmes compositions qu'un des médicaments incriminés comme ayant servi à l'empoisonnement.
Le fils s'aperçoit que Raymond Jactel prenait du Colchimax, un médicament pour la goutte. Il consulte la composition et découvre qu'il contient du phénobarbital, la molécule retrouvée dans le corps de Raymond Jactel. Alors que les experts avaient conclu qu'il ne prenait pas ce médicament.
Professeur Henri Coudane, expert en médecine légale.
Il faut avouer, et comme quoi l'expertise est quand même un acte humain qu'on essaye de réaliser dans les meilleures conditions, mais faute est pour moi d'avouer que dans le cas particulier, nous avons commis une erreur.
Rodica Negroyou dépose donc une demande en révision en octobre 2007.
Maître Baird, votre demande en révision est-elle acceptée ?
Non, la commission de révision va la rejeter en avril 2010. Elle reconnaît qu'il y a une erreur d'expertise, mais elle considère cependant qu'elle n'est pas de nature à mettre un doute sur la culpabilité de Mme Negroyou, dans la mesure où les concentrations en phénobarbital relevées étaient à des doses toxiques et non thérapeutiques.
Et des doses beaucoup plus importantes qu'une dose thérapeutique ?
3 à 4 fois, selon tel expert ou tel expert. Mais il faut savoir, et ça fait partie de notre deuxième demande de révision, il faut savoir qu'on s'est aperçu, aux alentours de 2002-2003, au travers d'observations de médecins qui suivaient une population d'obèses, où je crois que c'est au Texas, ces obèses, quand on faisait des analyses sanguines, ils avaient des traces de digoxine dans les analyses sanguines, alors qu'ils ne prenaient pas de digoxine. Et c'est ce qui a développé une recherche à ce sujet, qui va démontrer que quand vous êtes atteint de certaines pathologies, eh bien ces pathologies faussent les examens qui sont effectués selon les méthodes d'ailleurs qui avaient été employées par les experts de Mme Negroyou. En particulier, c'est les pathologies d'obésité, d'hypertension, de diabète. Et bingo ! De quoi souffraient les deux victimes ? Eh bien de ces pathologies. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons saisi à nouveau la commission de révision de la Cour de cassation.
Aujourd'hui, c'est le fils de Rodica Negroyou qui a repris la lutte. Vous le connaissez bien. Pensez-vous qu'il arrêtera un jour toutes ses recherches pour innocenter sa mère ?
Il n'arrêtera jamais. Il arrêtera le jour où sa mère sera innocentée. Depuis que sa mère a été condamnée, le fils de Rodica et Rodica sont entrés en résistance contre cette décision. Ce sont des résistants de la vérité et jamais, jamais, jamais ils s'arrêteront.
L'avenir de Rodica, il aurait déjà pu s'éclaircir. En février 2012, un juge lui a proposé de la libérer à condition qu'elle retourne dans son pays. Elle a refusé pour rester près de son fils. Elle a préféré la prison en France plutôt que la solitude en Roumanie.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Rodica Negroyou, l'empoisonneuse de Max Séville. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac... Vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.